Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine. Merci de votre fidélité. Comme chaque samedi avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information. Et je vous rappelle que vous pouvez podcaster ce rendez-vous hebdomadaire sur le site de la radio www.rfi.fr. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Stéphane Grumbach, bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, l'INRIA. Vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris. Vous signez dans la revue universitaire Hérodote, publiée aux éditions de La Découverte, un article mettant en lien gouvernance numérique et changement climatique. Et justement, la crise sanitaire que traverse le monde depuis le début de l'année est peut-être en lien avec le changement climatique. Et l'on a vu que dans les pays et les métiers où c'était possible, s'est développé le télétravail grâce aux capacités offertes par les nouvelles technologies. Pensez-vous que cette crise soit de nature à faire évoluer fortement nos pratiques numériques partout dans le monde?
Ah oui, c'est certain. Cette crise a mis les gouvernements de la plupart des pays du monde en difficulté et elle est l'occasion d'apprendre comment être plus résilient, comment fonctionner. Elle va aussi amener à des choix politiques, à favoriser certaines orientations plutôt que d'autres. On parle même de favoriser certaines générations plutôt que d'autres. Donc on voit que la question va être très politique.
Oui, vous écrivez que dans le même temps, cette accélération de l'adoption de nouveaux usages technologiques que l'on constate s'accompagne d'une prise de conscience de son impact sur l'environnement. Est-ce que, selon vous, l'écosystème de la Terre est à ce point menacé?
Si on en croit les rapports du GIEC, en particulier pour ce qui concerne le changement climatique, mais on pourrait prendre d'autres domaines comme l'évolution de la biodiversité, oui, ces rapports-là sont alarmants et ils le sont de plus en plus.
Oui, le GIEC, c'est le groupement
gouvernemental sur le climat, donc une émanation des Nations Unies qui a été créée en 1988 et qui publie régulièrement des rapports qui sont les plus grandes compilations scientifiques de connaissances sur l'ensemble du climat.
Et que disent les derniers rapports du GIEC, précisément?
Alors, le dernier rapport est alarmant parce que le GIEC est parti sur l'hypothèse d'un doublement de la concentration de carbone dans l'atmosphère par rapport au niveau qui préexistait avant la révolution industrielle. Et on pensait que ce doublement résulterait dans une augmentation des températures autour de 2 degrés, ce qui était les objectifs de la COP de Paris, de limiter l'augmentation des températures à 1,5 à 2 degrés. Et puis les dernières modélisations, donc on voit l'importance du numérique, semblent indiquer que cette augmentation de la concentration de carbone résultera dans une augmentation plus forte des températures.
De quel ordre environ? 4, 5 degrés?
Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Donc la situation est en train d'empirer aujourd'hui?
Les connaissances qu'on a semblent plus négatives qu'elles ne l'étaient avant. C'est-à-dire que les capacités qu'on a de modéliser l'environnement global, et en particulier ce qui a changé récemment, c'est la capacité de modéliser le rôle des nuages. Et les nuages jouent un double rôle, en fait, à la fois dans le refroidissement et le réchauffement. Et on a pensé pendant longtemps que ces deux aspects s'équilibraient et on pense maintenant qu'ils contribuent plus au réchauffement qu'au refroidissement.
Oui, vous disiez qu'on voyait ainsi dans ce dernier rapport du GIEC l'importance du numérique. C'est une importance pour les constatations et les prédictions, l'apport que l'outil numérique donne pour que l'on constate la situation aujourd'hui, ou au contraire, est-ce parce que le développement du numérique a des conséquences directes sur le changement climatique?
Alors, il y a les deux aspects, c'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est que le numérique, et plus généralement l'informatique, à partir de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, donc avec le développement des ordinateurs, la capacité de modéliser des phénomènes physiques de plus en plus complexes, a permis d'établir des modèles de l'écosystème de la Terre de plus en plus complets et qui continuent à se compléter jusqu'à nos jours. Ces modèles ont permis de faire des prédictions et donc maintenant on a un peu d'historique sur ces prédictions puisque on sait que pour les prédictions qu'on a faites il y a une vingtaine d'années par exemple, eh bien on a l'expérience de ce qui s'est passé pendant ces 20 ans. Alors l'autre question, oui. Elle est liée à l'impact du numérique, puisque le numérique a très largement pénétré nos sociétés. Il a un double impact, à la fois la consommation énergétique du numérique a fortement augmenté, et puis il y a des inquiétudes quant à la pollution, parce que les outils du numérique, les smartphones par exemple, sont de plus en plus complexes, mêlent de plus en plus de toutes petites quantités de matériaux différents, et sont en fait très difficilement recyclables.
Oui, nous reviendrons bien évidemment tout cela, Stéphane Grumbach, tout au long de l'émission. Avant cela, place à l'actualité, c'est le type de l'émission, dans le monde, hors Afrique.
Une semaine d'actualité.
La situation sanitaire dans le monde apparaît très contrastée. Si en Europe, le déconfinement est en marche, on le verra un peu plus tard avec la situation en France, ce n'est pas le cas sur les autres continents. Ainsi, en Amérique latine, où le Brésil compte toujours de plus en plus de décès alors que le président Bolsonaro persiste dans son déni de la pandémie. Et si le Pérou permet la réouverture de quelques centres commerciaux, le Venezuela a choisi de durcir ses conditions de quarantaine. Benjamin Delisle à Caracas.
C'est un peu un retour de flamme pour les autorités vénézuéliennes. Depuis le 1er juin, les restrictions étaient en passe d'être levées via un système de roulement avec une semaine de flexibilisation suivie d'une semaine de confinement total. Mais depuis le 1er juin, la propagation du virus s'est aussi considérablement accélérée. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a fortement augmenté, passant d'à peine plus de 1600 personnes infectées pour 17 décès à près de 4000 cas diagnostiqués dont 33 sont morts. Des chiffres qui sont d'ailleurs contestés par l'opposition et des organisations comme Human Rights Watch, selon qui le virus est bien plus présent au Venezuela que n'ose l'admettre le gouvernement. Toujours est-il qu'à partir de ce lundi 22 juin, les autorités entendent resserrer la vis. La circulation par les principaux axes routiers va être limitée dans 10 États et des barrières spéciales de contention vont être mises en place dans plusieurs endroits, en particulier à Caracas et dans les zones frontalières. Seuls les travailleurs des secteurs essentiels pourront donc se déplacer et les Vénézuéliens qui ont largement investi les rues ces dernières semaines vont devoir à nouveau se cloîtrer chez eux.
La Corée du Sud, de nouveau inquiète sur un rebond de la pandémie. Les autorités réagissent vite en appliquant des mesures draconiennes pour empêcher la circulation du virus, comme le montre ce reportage de Stéphane Lagarde, notre correspondant à Pékin.
Des agents de sécurité, masques noirs et gilets jaunes qui nous invitent à passer notre chemin devant l'accès au quai. Ce message en gros caractère, coronavirus interdit d'entrer dans le bâtiment sur la porte du syndicat des dockers du port de Gamcheon. 87 ouvriers portuaires et fonctionnaires ont aidé à préparer le déchargement de ce navire arrivé de Russie ce week-end. Tous ont été placés à l'isolement dans l'attente des résultats des tests Covid qui devraient arriver avant jeudi. Réunion ce matin avec les autorités portuaires. D'ici là, le travail est interrompu. Le bateau de 3 933 tonnes se cache derrière des murs surmontés de barbelés, ce qui n'empêche pas l'inquiétude de monter dans les entrepôts frigorifiques. Immense cube de béton posé entre les collines et la mer, nous explique cet employé.
Le bateau russe est par là, dans cette direction. Ici, ça va, c'est pas trop dangereux, mais tout le monde fait attention. On est étonné, on a peur, on doit garder nos distances. Faut pas parler trop près, là, comme nous le faisons maintenant, là, par exemple.
Des règles de distanciation sociale renforcées, mais peu appliquées ces derniers jours, selon les médias. Le déchargement des cargaisons surgelées, poissons, fruits de mer sont également suspendus. Les autorités sud-coréennes s'inquiètent du rebond des cas importés, mais pas seulement. Nous ne redoutons pas une deuxième vague, disaient hier en substance les experts. Nous sommes en plein dedans.
Certains pays ont-ils bien pris la mesure de la pandémie ? On peut s'interroger sur les mesures prises, par exemple, par les autorités égyptiennes lorsque l'on constate l'hécatombe dont ont été victimes les médecins dans ce pays. Alexandre Bouchanti.
Malgré une amélioration des mesures de protection du corps médical, les hôpitaux publics égyptiens restent une zone à risque. En mai, suite au décès par négligence d'un jeune docteur, le syndicat des médecins avait dénoncé une gestion laxiste du coronavirus. Virus qui menaçait d'une catastrophe. Mais plus grave encore, des centaines de médecins ont menacé de démissionner des hôpitaux publics déjà en sous-effectif. Pour parer au danger, le gouvernement a décrété une prime de risque et une augmentation de salaire, ainsi qu'une priorité de place en soins intensifs au corps médical. Toutefois, la multiplication des cas, l'Égypte a dépassé les 50 000, met une pression insupportable sur les hôpitaux publics, généralement vétustes, mal équipés et bondés. Le nouveau budget prévoit bien une nette augmentation des investissements santé, mais en attendant, il faudra faire avec les moyens du bord.
Stéphane Grumbach, cette cacophonie dans la prise en compte, ou non d'ailleurs, de la pandémie, a-t-elle de quoi surprendre? Y a-t-il toujours, derrière les décisions prises, des arrière-pensées politiques?
Oui, certainement. Cette crise liée à la pandémie, elle soulève évidemment une question qui est: quel est le lien avec l'évolution de l'environnement global? Et pour revenir au rapport que publient les scientifiques sur cette évolution et aux conséquences de cette évolution sur les sociétés humaines, on voit bien que cette pandémie nous prévient des catastrophes à venir. Et donc on peut en tirer des conséquences politiques diverses, soit penser que la pandémie, eh bien, une fois qu'on aura réglé cette crise-là, le monde redeviendra comme avant, soit au contraire penser qu'il faut tirer le maximum de leçons de cette pandémie pour construire une société beaucoup plus résiliente. Donc à la fois, ce n'est pas étonnant qu'il y ait cette cacophonie, ces hésitations. C'est un climat où il faut apprendre, et donc je crois que la chose la plus importante n'est pas tant de reprocher l'inefficacité des gouvernements ou des institutions, que vraiment de tirer les leçons.
Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Aux États-Unis, le groupe chimique allemand Bayer va débourser 10 milliards de dollars pour solder ses principaux litiges liés au Roundup, le pesticide le plus vendu au monde, à base de glyphosate. L'entreprise allemande a également remporté une victoire judiciaire importante sur ce dossier du glyphosate, puisque l'ordonnance qui obligeait Monsanto, rachetée par Bayer, à prévenir des risques de cancer sur les étiquettes de ses produits au glyphosate, a été annulée par un juge fédéral. Bayer pourra donc vendre son herbicide sans aucune mention préventive. Une semaine de référendum s'ouvre en Russie. La population va se prononcer jusqu'au 1er juillet sur l'éventuel maintien au pouvoir de Vladimir Poutine jusqu'en 2036. Tout à fait pour encourager la participation. Par exemple, à Moscou, si vous allez voter, vous aurez le droit de participer à un tirage au sort pour gagner des bons de réduction dans divers magasins. On peut voter également en ligne dans la capitale et il est même possible de faire venir l'urne électorale à domicile. Cela accentue évidemment les risques de fraude, ce que dénonce l'opposition. Notre correspondant en Russie, Daniel Valo.
Faute d'accès à la télévision et privé de meeting pour cause de coronavirus, c'est sur Internet que les ténors de l'opposition sont obligés de débattre. Pour le plus célèbre d'entre eux, l'avocat et blogueur Alexei Navalny, il n'est pas question de participer à un scrutin qualifié de mascarade. Je suis pour la participation aux élections dans 99% des cas. Mais ce vote est totalement illégitime. Il est donc impossible d'y participer. Ensuite, il y a les risques liés au coronavirus. À mes yeux, il serait immoral d'appeler à voter dans ces conditions. Pour les tenants du boycott, participer à ce vote serait une façon de le légitimer. Ancien membre du parti Yabloko, Maxim Katz estime au contraire qu'il faut aller voter et s'opposer dans les urnes au projet du président russe.
Depuis l'élection de 2018, la cote de popularité de Poutine a brutalement chuté. Et dans la rue, tous les gens nous disent qu'ils veulent s'opposer à la réforme. Il y a un tel mécontentement au sein de la société que les gens veulent aller voter contre.
Quelle que soit la stratégie adoptée par l'opposition, la réforme de la Constitution voulue par Vladimir Poutine a toutes les chances d'être adoptée le 1er juillet prochain. Le président russe aura alors le droit de briguer deux nouveaux mandats et dans un entretien accordé il y a quelques jours à la télévision russe, Vladimir Poutine a pour la première fois évoqué la possibilité de se présenter de nouveau en 2024.
Après la presse papier et audiovisuelle, la presse en ligne. en Hongrie, des proches du Premier ministre Viktor Orban, sont entrés au capital d'Index, le premier portail d'information le plus consulté dans le pays après Google, Yahoo et YouTube. Le déclin du journalisme indépendant en Hongrie a déjà conduit l'Union européenne à déclencher une procédure exceptionnelle pour risque de violation grave des valeurs de l'Europe en Hongrie. Une mise au pas d'Index ne ferait qu'aggraver la situation. Florence Labrouillère, à Budapest.
L'indépendance d'Index est en danger. Ce message, signé par les journalistes du premier site web de Hongrie, sonne comme un cri d'alarme. Son indépendance éditoriale est bien garantie sur le papier, mais en pratique, des hommes d'affaires proches du Premier ministre Viktor Orban sont rentrés dans le capital de l'entreprise. Le parti au pouvoir veut-il mettre la main sur l'un des derniers médias indépendants ? Pour Judith Windisch, journaliste à l'hebdomadaire économique AVG, Index a de quoi susciter les convoitises.
Index est le journal en ligne qui a le plus d'audience. Pendant la crise du Covid, ils ont eu jusqu'à 1 700 000 visiteurs. C'est un résultat exceptionnel.
La stratégie de Viktor Orban n'est pas nouvelle. Depuis des années, ses amis oligarques rachètent des journaux indépendants pour en faire des machines de propagande, explique le journaliste Attila Mong.
Et ces médias jouent un rôle important dans ce qu'on appelle « trolling ». Ils essayent de démolir les médias indépendants, de les traîner dans la boue, de montrer que ces médias sont seulement des activistes politiques.
D'après les journalistes d'Index, qui préfèrent ne pas parler au micro, il y aurait dans les tiroirs un plan de restructuration du journal, un plan qui menacerait l'indépendance de la rédaction. Selon plusieurs commentateurs, le paysage médiatique hongrois se rapproche de plus en plus du modèle russe.
Stéphane Grunbach, les élections et la presse, ces deux domaines sont-ils impactés directement par la transformation numérique ?
Oui, en effet. C'est effectivement deux domaines qui sont terriblement impactés par le numérique. Et donc, on voit par l'impact sur ces deux domaines, à quel point le numérique change la manière de faire de la politique. Pour ce qui est des élections, il y a quelque chose aujourd'hui d'un peu anachronique de ne pas pouvoir voter systématiquement en ligne. Et c'est assez ironique d'ailleurs de voir la confiance qu'on peut avoir dans le vote en ligne en Russie, ou du moins le fait que ce vote soit utilisé, ça doit faire rire jaune les Américains. Mais la question est que, en fait, on ne sait pas techniquement garantir la sécurité du vote électronique ou en ligne. Et surtout, il n'y a aucun moyen, même si on peut prouver la fiabilité de certains mécanismes, il n'y a aucun moyen pour le rendre vérifiable par n'importe qui. C'est-à-dire que l'urne en plastique transparente dans laquelle on met les bulletins de vote, ça permet à n'importe quelle personne, quel que soit son degré de connaissance technique, de vérifier que le processus est régulier. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on n'arrive pas à faire de manière numérique. Pour la presse, plus de la moitié des titres de presse ont déposé le bilan dans les 20 dernières années. De nouvelles formules émergent. Mais ce qu'on voit, c'est le rôle des agrégateurs, et donc c'est le cas d'Index qui était mentionné en Hongrie, qui joue un rôle de plus en plus important. Donc ces grandes plateformes numériques qui sont au cœur de la manière de distribuer l'information et qui changent complètement le pouvoir qui s'exerce sur l'information, ce qu'on favorise, ce qu'on filtre. Ce n'est plus le fonctionnement qui existait dans le passé avec les grands partis politiques et les grands journaux nationaux. Ce fonctionnement est vraiment remis en cause aujourd'hui.
Oui, contrôler ces plateformes, c'est contrôler l'information directement.
Tout à fait.
Alors revenons sur notre analyse de l'imbrication entre évolution technologique et changement climatique. Stéphane Grunbach, vous écrivez dans votre article publié dans la revue Hérodote que tout part de la révolution industrielle au XIXe siècle qui s'accélère et se complexifie dans les années 1950 et après. Est-ce que le numérique accompagne cette accélération ?
Oui, tout à fait. Les technologies de l'information, elles se développent en général pour accompagner une complexification, pour répondre à une complexification. Et c'est tout particulièrement clair au XIXe siècle, au début du XIXe siècle avec la révolution industrielle, qui va générer de très nombreux accidents, certains étant dus à la maîtrise de la matière, mais beaucoup résultant de problèmes informationnels. Si je prends l'exemple du ferroviaire, faire un train, c'est maîtriser la thermodynamique, être capable de construire une machine à vapeur. Mais faire deux trains, c'est maîtriser l'information. Et donc, un réseau ferroviaire, c'est à la fois un système de transport physique de trains, mais aussi de transport d'informations. Et il y a une très belle image de ça qui est toutes les photographies de voies de chemin de fer du 19e siècle montrent toujours une voie de télégraphe qui longe la voie ferrée. Et donc, les technologies de l'information vont se développer avec la complexification de la société et en même temps, elles contribuent à complexifier la société puisqu'elles rendent dépendants, interdépendants, des phénomènes qui sont éloignés et qui autrefois auraient été largement indépendants et qui deviennent de facto dépendants.
Alors, vous parlez également dans votre article de contemporanéité entre cette évolution technologique intentionnelle, dites-vous, et la dégradation environnementale, elle, fortuite. Que voulez-vous dire par là ?
Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intrigué. On assiste depuis les années 50 à la digitalisation, à l'informatisation, à au fait que les ordinateurs interviennent de plus en plus dans les processus décisionnels. Et puis, depuis les années 90, avec l'émergence de la toile, au fait que le numérique n'est plus une affaire de spécialistes ou ne concerne plus seulement l'industrie, mais absolument tout le monde. Et quand on regarde cette évolution, donc qui est extrêmement rapide, elle est en fait parallèle avec la prise de conscience de l'évolution défavorable de notre environnement. Et donc ma question, c'était mais pourquoi cette évolution parallèle entre la prise de conscience de la dégradation de l'environnement et le numérique ? Cette contemporanéité, elle est factuelle, on l'observe. Mais ce que je vois, c'est que la situation de l'environnement complexifie beaucoup le fonctionnement des sociétés humaines qui vont devoir mesurer leurs interactions avec l'environnement. Et le numérique est vraiment le vecteur de cette mesure. Alors, sur l'intentionnalité, il y a quelque chose de frappant. La dégradation de l'environnement, elle résulte des activités humaines, mais elle n'est pas intentionnelle. Elle est un effet non désiré. Le développement des technologies de l'information, lui, il est le fait d'une volonté politique, industrielle et de la population. Mais pour autant, les disruptions du numérique semblent nous dépasser. Celles que nous avons mentionnées juste avant concernant les élections ou la presse remettent en cause même le fonctionnement politique de nos sociétés. Et il ne semble pas qu'elles aient été souhaitées. Et donc nous retrouvons, sur une intentionnalité qui est différente, nous nous retrouvons avec des disruptions dans les deux cas qui nous dépassent.
Mais néanmoins, lorsque l'on considère les liens entre l'activité humaine et puis le climat, les évolutions technologiques ne permettent-elles pas de construire des modélisations pour prévoir les changements à venir et éventuellement d'ailleurs en corriger les trajectoires ?
Oui, tout à fait. À partir des années 60, on a commencé à faire des modèles assez de plus en plus complets du climat de la planète, donc qui intervenaient dans la prolongation de tous les efforts qui avaient été faits depuis la fin du 19e siècle pour la météorologie. Et puis, dans le courant des années 60, on a aussi fait des modèles de la dynamique des systèmes, en particulier Forrester au MIT, pour modéliser les activités humaines. Et les modélisations de Forrester sont assez célèbres parce que elles ont été utilisées pour le célèbre rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance de 1972, qui modélisait l'évolution des sociétés humaines, à la fois la population, la production industrielle, agricole, la pollution et puis l'utilisation de ressources non renouvelables. Et ce rapport de 1972 prévoyait des pics dans la croissance de l'ensemble de ces variables vers le milieu du 21e siècle, y compris pour la population. Et donc, il prévoyait une chute de la population, ce que certains prévoient également aujourd'hui.
Oui, nous y sommes pratiquement.
Voilà, nous
y arrivons.
Certains, Voilà, il y a plusieurs modèles. Il y a des gens qui pensent que la population va continuer à augmenter, d'autres pensent qu'elle pourrait commencer à décroître ou prochainement commencer à décroître. Et donc oui, les modèles permettent d'avoir des idées sur le fonctionnement des sociétés humaines en lien avec l'écosystème naturel. Par contre, c'est dans les mains du politique de mettre en œuvre ces changements. Pour prendre un exemple simple, décarboner l'économie, ce qui est une recommandation du GIEC et une priorité assez simple dans son expression, ce n'est pas si facile à mettre en œuvre et on voit à quel point les gouvernements peinent à le faire.
Jours en France.
L'actualité en France marquée cette semaine par la rentrée scolaire obligatoire pour tous les enfants. Une rentrée pour quelques jours seulement, puisque les vacances d'été commencent au début juillet. Mais globalement, les parents y sont plutôt favorables, comme le montre ce reportage de Laurence Théo dans une école de la région parisienne.
Je pense que c'est important pour les enfants de reprendre un contact un peu plus régulier avec l'école avant les grandes vacances. Et puis parce que je pense que les enfants ne sont pas faits pour vivre avec les adultes et qu'ils ont besoin d'être plongés dans un univers d'enfants et un univers scolaire.
Comme elle est en CM2 ma fille, je suis pour la remettre au moins une fois pour ne serait-ce que de pouvoir lui faire la transition entre le CM2 et la 6e, qu'on sache que l'élémentaire s'arrête, de dire au revoir à sa maîtresse, de dire au revoir à ses camarades. Mais bon, de reprendre réellement, non, j'y étais pas spécialement pour. J'aurais préféré qu'il fasse une journée fête pour dire au revoir à tout le monde et puis voilà.
C'est une très bonne chose puisque ça va, sinon ça fera un petit peu long d'ici la rentrée de septembre, donc même s'il reste peu de temps. Il y a le lien social qui est quand même important aussi pour eux, de retrouver les copains, les copines. C'est peut-être même plus important sur 2 semaines que l'enseignement en tant que tel, mais donc oui, je pense que c'est important.
Pour 2 jours d'école, il y a plus de risques qu'autre chose. Comme on suit toujours l'école à la maison, on a toujours contact avec les maîtres, les maîtresses. Du coup, pour 12 jours d'école, c'est plus un risque qu'autre chose.
Ouais, non, pour le coup, je trouve que c'est mieux que rien. Et puis pour les parents qui bossent, il y a un moment, il va falloir qu'on retourne travailler, quoi. Donc c'est important. C'est surtout pour ça.
L'application Stop Covid ne marche pas très bien en France, à l'exception peut-être de la Guyane, qui connaît une forte poussée de l'épidémie. Valérie Cohen a recueilli le sentiment de Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique.
On sentait une pointe de déception chez Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Seulement 2 millions de téléchargements pour l'application Stop Covid en France, dont un quart ont été suivis d'une désinstallation. Outre-Rhin, on recense plus de 10 millions de téléchargements de l'application allemande. Pour Cédric O, l'outil n'est pas en cause.
Mon avis personnel, c'est que cela ne dit rien de l'application, cela dit tout probablement de nos différences culturelles, de notre sensibilité au débat technologique, de nos différences de comportement face à l'épidémie. Par exemple, la baisse du port des masques, la baisse du respect du geste barrière.
Reste que pour Simon Cauchemet, chercheur à l'Institut Pasteur, l'intérêt de ce genre d'application est certain.
Ce suivi des contacts a d'abord un intérêt donc pour l'ensemble de la société en cassant les chaînes de transmission et puis aussi un intérêt pour les personnes concernées pour qu'ils puissent être prises en charge plus rapidement s'ils ont été infectés par un contact et puis aussi protéger leurs proches.
En Guyane, où l'épidémie s'accélère, des SMS d'information sur Stop Covid ont été envoyés au public. Résultat, l'application connaît un regain d'intérêt selon Cédric O.
Nous avons choisi de demander à tous les opérateurs d'envoyer un SMS à toutes les personnes possédant un téléphone portable en Guyane. Sur le premier tir qui a été fait avec l'un des opérateurs, sur 20 000 SMS, nous avons vu plusieurs milliers de personnes télécharger l'application dans les heures qui ont suivi.
C'est peut-être ce qui se passera dans l'Hexagone si l'épidémie venait à s'emballer.
Stéphane Grumbach, cette application Stop Covid inspire plutôt la méfiance. A-t-on eu tort de faire cavalier seul alors que des applis marchent très bien ailleurs, comme par exemple à Taïwan ou en Corée du Sud? Est-ce qu'on a eu tort d'être seul à promouvoir cette application Stop Covid?
C'est une question assez complexe en fait, et c'est assez difficile de comparer ce qui se passe en Europe ou en Asie orientale. Quand on développe une application numérique, c'est pour certaines fonctionnalités. Et plus les fonctionnalités sont complexes, plus elles utilisent de données et plus elles présentent de risques sur un détournement de ces données pour d'autres usages. Alors, on trouve entre l'Europe et l'Asie un comportement très très différent. En Europe, on va essayer de réduire au maximum le risque et donc de voir une fonctionnalité qui est assez minimale. En Asie, au contraire, les applications qui ont été développées pour la pandémie ont favorisé la fonctionnalité. Alors, la différence est grande puisque l'Asie a une confiance beaucoup plus forte dans les outils numériques que l'Europe, même si il y a aussi en Asie des débats sur le mauvais usage qui peut être fait des données, y compris au niveau politique. Mais ce qui a été fait en Europe, c'est essentiellement des systèmes qui informent. Donc, les applications de traçage, dont StopCovid fait partie, informent les personnes qu'elles ont pu croiser quelqu'un qui était infecté. Il y a aussi d'autres applications en Europe, en Allemagne en particulier, et au Royaume-Uni, qui permettent de remonter aux autorités sanitaires des informations anonymisées venant de la population et qui permettent de cartographier l'épidémie. Dans le cas du choix de Stop Covid en France, la France est dans une position particulière parce qu'elle a choisi, ces applications tournent sur des smartphones, donc ils doivent utiliser les outils des smartphones. Et ces outils, et en particulier donc le Bluetooth pour cette application, et ces outils sont sous le contrôle, l'accès à ces outils est sous le contrôle des industries qui en développent les systèmes. Et donc en l'occurrence, Apple pour iOS et Google pour Android. Or, Apple et Google ont proposé une solution dont l'argument est de protéger la vie privée, qui est très décentralisée, qui ne remonte pas donc de données vers un serveur central, ce qui est le cas de Stop Covid. Il y a eu une tension en Europe, un débat, et finalement la plupart des pays européens ont choisi de construire des applications sur la solution Apple-Google, proposée par Apple et Google. La France se retrouve isolée donc avec une solution un peu différente et en difficulté. Je crois que l'un des points importants, il est de tirer les leçons de cette épidémie et de s'imaginer qu'il pourrait y en avoir d'autres. Et ce qui a fait une réaction beaucoup plus efficace dans les pays d'Asie, c'est le fait, bien sûr, que ce n'était pas la première vague épidémique que ces pays subissaient. Et donc, il est évident que le numérique jouera un rôle croissant. Si nous devions nous installer dans cette épidémie, par exemple, pendant longtemps, ou bien si nous devons subir prochainement une épidémie de plus grande ampleur, alors c'est évident que les outils numériques devront être utilisés.
Oui, Stéphane Grunwald, vous parliez de ces informations qui peuvent ou ne pas être remontées par des applications dont on a parlé, notamment StopCovid. Alors, toutes ces informations constituent finalement la datasphère dont le développement est de plus en plus complexe et en interconnectant notamment de plus en plus d'informations. Parlons de ces infrastructures de la datasphère. Quelle est leur architecture? Comment ça fonctionne?
Alors, la datasphère est une architecture qui est très particulière et très intéressante. Elle a essentiellement deux types de composants. D'abord, des dizaines de milliards de capteurs petits, installés partout. Nos smartphones en font partie, les caméras de surveillance dans l'espace public, les machines, la logistique mondiale est contrôlée par des machines, l'agriculture, les parcelles agricoles. Donc, ces capteurs sont partout et ils permettent de remonter des données et ils permettent aussi d'envoyer des instructions. Vous en donniez un exemple juste avant, dans l'appel qui est fait aux opérateurs de téléphonie d'envoyer un SMS invitant à se connecter à Stop Covid. C'est un exemple d'instruction qui redescend. Donc on a d'un côté ces dizaines de milliards de capteurs, dont le nombre devrait atteindre 100 milliards d'ici peu de temps. Et puis de l'autre côté, on a des infrastructures très très grosses, des centres de données, dont certains ont une consommation électrique qui s'approche du gigawatt, qui est la capacité d'un réacteur nucléaire et qui concentre cette masse immense de données et qui met en forme les services de la société numérique. Donc on a en fait d'un côté des tout petits appareils et de l'autre côté des appareils gigantesques.
Et est-ce que l'on peut dire que l'évolution de la datasphère influence aussi bien les équilibres géopolitiques de la planète que les échanges personnels d'individu à individu ?
Oui, tout à fait. Alors les échanges personnels sont largement connus avec les réseaux sociaux et tout le débat qui tourne autour de leur usage, leur mauvais usage et les inquiétudes ou les enthousiasmes qu'ils suscitent. Mais au niveau géopolitique, la question est moins connue, mais elle est très très importante. Parce que la répartition de ces grands centres de données et de ces grands acteurs de la donnée, que sont les grandes plateformes mondiales, n'est pas du tout uniforme dans la géographie. Elle est très concentrée. Et on trouve essentiellement aujourd'hui sur la planète deux très grandes puissances, les États-Unis et la Chine, des puissances moyennes, je citerai la Russie et la Corée, et puis par ailleurs des pays qui sont surtout dépendants des plateformes développées dans d'autres pays et donc qui ont leurs données qui dépendent d'une philosophie politique qui est différente et d'un cadre légal qui est différent et qui sont souvent stockés hors frontières. Donc oui, ça induit de nouveaux rapports de force dans la géopolitique et essentiellement, eh bien, celui qui a le plus de données est en capacité d'avoir le plus d'informations et c'est celui qui a le plus de pouvoir.
Sept jours en Afrique. Nous poursuivons donc en Afrique ce panorama de l'actualité de la semaine en restant un tout petit peu en France puisque Paris a accueilli en début de semaine le président tunisien. Kais Saied est d'ailleurs le premier chef d'État étranger à être reçu après le confinement sanitaire. Qualifié de visite de travail et d'amitié, les deux présidents ont tenu à évoquer la situation en Libye, pays limitrophe de la Tunisie. François Mazet.
Cessez-le-feu, reprise des négociations sous l'égide de l'ONU, réunification des institutions et reconstruction de la Libye. Emmanuel Macron et Kais Saied ont défendu une ligne commune entre Paris et Tunis. Le président français a dénoncé le jeu dangereux de la Turquie dans lequel il voit une nouvelle démonstration de la mort cérébrale de l'OTAN et jugé légitime les inquiétudes des voisins de la Libye.
Je ne veux pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, avoir à constater que la Libye est dans la situation de la Syrie d'aujourd'hui. Je considère que c'est notre responsabilité à l'égard des voisins, la Tunisie, l'Égypte. Je pense aussi au Tchad et au Niger.
Son homologue tunisien s'est lui éloigné de Rached Ranouchi. Le président de l'Assemblée et chef de file d'Ennahda avait salué les succès des troupes de Tripoli contre celles du maréchal Haftar. Mais pour le chef de l'État tunisien, le gouvernement d'Union nationale n'a plus la légitimité pour revendiquer le contrôle du pays.
L'autorité qui existe à Tripoli est née de la légalité et de la légitimité internationale, mais cela ne peut continuer ainsi. C'était temporaire, il faut la remplacer par une nouvelle légalité, une nouvelle légitimité à naître du peuple libyen. Il faut une constitution provisoire.
La Tunisie est un des pays qui souffre le plus de la guerre civile, a souligné Kais Saied. Il faut une solution libyenne pour empêcher un partage inacceptable du pays, a conclu le président tunisien.
Nouvel épisode cette semaine du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien bras droit Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Les deux hommes ont été acquittés en janvier 2019 des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais la chambre d'appel de la Cour a fait appel. Pour quel résultat ? Eh bien, l'analyse de Stéphanie Maupa à La Haye.
Il y a plusieurs scénarios possibles. Soit la chambre d'appel confirme l'acquittement, le dossier Gbagbo-Blé Goudé à la CPI serait alors refermé et les deux Ivoiriens libérés sans condition, ils pourraient éventuellement réclamer des réparations. Si au contraire les magistrats se prononcent en faveur de la procureure, Fatou Bensouda devra alors dire quelles suites éventuelles elle entend donner au dossier, soit elle laissera l'affaire en état et les deux Ivoiriens seront totalement libérés, mais avec le risque de pouvoir être poursuivis de nouveau à La Haye ou ailleurs ailleurs pour les mêmes faits, soit si elle obtient de nouvelles preuves et la coopération des autorités, comme elle l'explique dans son mémoire, sans préciser si elle évoque la Côte d'Ivoire, elle demandera un nouveau procès. Fatou Bensouda assure que ce procès pourrait être conduit rapidement sur la base d'accusations resserrées. Dans ce cas, qu'adviendra-t-il des deux Ivoiriens aujourd'hui libérés mais sous conditions? Seront-ils de nouveau incarcérés ou assignés à résidence? Comparaîtront-ils librement? C'est un autre débat sur un dossier ouvert depuis presque 10 ans devant la CPI.
La libération d'Ignace Sossou au Bénin. Le journaliste avait été condamné à 18 mois de prison, transformé en 6 mois en appel, pour 3 tweets mettant en cause le procureur général béninois lors d'une réunion de travail organisée par l'agence CFI pour le développement des médias du Sud, réunion dont le thème était l'Infox. Jean-Luc Aplogan attendait Ignace Sassou à sa sortie de prison. Reportage.
À sa sortie de la maison d'arrêt, Ignace Sossou est apparu décontracté, visage masqué, lunettes de soleil, t-shirt noir porté sur un pantacourt blanc. Ses premiers mots sont pour ceux et celles qui se sont fortement mobilisés pour sa libération.
Je remercie toutes les organisations de journalistes qui sont mobilisés pour réclamer ma libération. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Je vous remercie très sincèrement.
Quelques collègues euphoriques et émus oublient les gestes barrières, lui sautent au cou, l'embrassent et lui serrent la main. Paul Arnaud Deguenon, patron de Bénin Web TV et employeur de Ignace Sossou, a fait le déplacement. Il ne cache pas sa joie.
Nous sommes tout heureux de l'avoir à nouveau parmi nous.
Présent aussi, maître Brice Sossou, il a défendu le journaliste en appel. Il révèle que son client a fait un pourvoi en cassation. Il ne va pas se contenter de cette libération.
L'esprit des lois de la République du Bénin, c'est que le journaliste ne doit jamais se retrouver en prison pour ses écrits. Mais le combat n'est pas fini, nous allons le continuer pour que la juridiction suprême nous situe par rapport à la compréhension qu'il faut avoir des lois de la République, la loi portant code de la presse et la loi portant code numérique.
Ignace Sossou a quitté la prison civile en voiture avec son frère venu le chercher.
Stéphane Grumbach se retrouvait en prison pour quelques tweets dénonçant d'ailleurs de fausses informations. C'est un peu le monde à l'envers, non ?
Oui, ça peut surprendre, effectivement. Mais je crois que c'est une évolution, effectivement, à laquelle on assiste aujourd'hui et qui intervient après peut-être une illusion des débuts de la toile à la fin des années 90, où le modèle libertarien s'était imposé et qui avait fait penser que la censure et le fait d'inquiéter les gens pour ce qu'ils écrivaient appartenaient au passé. Mais malheureusement, on voit que à la fois la censure et le fait de poursuivre les gens pour ce qu'ils écrivent se redéveloppent de manière très forte.
Parlons des plateformes d'intermédiation, on en parlait déjà tout à l'heure en début d'émission. Elles sont généralement mues par des objectifs financiers, mais vous dites dans votre article dans Hérodote qu'elles pourraient être motrices dans la mise en œuvre de nouvelles normes comportementales. Comment ?
Alors les plateformes d'intermédiation, que ce soit les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les places de marché en ligne, elles mettent en relation des personnes sur des marchés essentiellement. Donc d'un côté on a des gens qui fournissent des services ou des biens et de l'autre des gens qui consomment ces services et ces biens. Et aujourd'hui leur modèle économique est basé sur la publicité et donc elles sont véritablement des machines à augmenter la consommation. Mais en même temps, elles sont au cœur des échanges. Elles dominent, elles contrôlent l'ensemble des échanges. Et donc, si ces échanges doivent être restreints ou orientés, décarbonés par exemple, eh bien, on voit bien le rôle essentiel que vont devoir jouer les plateformes, puisqu'elles pourraient tout à fait inciter à certains comportements, puisqu'elles sont elles qui ont la plus grande capacité normative aujourd'hui, voire même interdire tout simplement certains comportements ou limiter la consommation personnelle, par exemple. Donc, je n'ai pas de doute qu'elles vont jouer, dans une certaine échéance, un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l'adaptation aux limites.
Parlons de la Chine, si vous voulez bien, Stéphane Grumbach, parce que ce pays semble être précurseur en matière de prise en compte du dérèglement climatique, notamment avec son PIB vert. Qu'est-ce que c'est précisément? Vous le citez dans votre article.
Alors, le PIB, comme indicateur, comme mesure de l'activité des pays, n'est pas si ancien que ça. Il date essentiellement de... C'est généralisé après la Seconde Guerre mondiale. On a tendance à le percevoir comme une mesure unique et inaliénable. Mais le PIB ne tient aucun compte des ressources naturelles, de l'impact qu'on a sur l'environnement, du niveau de dégradation de l'environnement. Et si on doit mesurer la richesse d'une nation, il est clair que si son environnement est très très dégradé ou s'est dégradé dans l'année, eh bien c'est une évolution négative de la richesse, alors que si son environnement s'est amélioré, eh bien c'est une évolution positive de la richesse. Et donc un certain nombre de gens, parmi lesquels Stiglitz, propose de nouvelles mesures, d'abandonner le PIB et de prendre une mesure de l'économie, de l'activité économique qui prenne en compte l'écosystème. Et donc la Chine a mis en place, a commencé à mettre en place ce PIB vert, donc qui prend des mesures écosystémiques et qui sont prises en compte d'ailleurs dans son système de mesures sociales, d'évaluation sociale des individus.
Mais n'y a-t-il pas un risque avec l'émergence d'une société plus de contrôle, une société dans laquelle les citoyens abandonneraient certaines libertés en échange, évidemment, de garanties en matière de sécurité, de santé et aussi d'environnement ?
Oui, c'est une question fondamentale, absolument fondamentale de nos sociétés aujourd'hui. On est dans une époque de montée en puissance de la société du contrôle. Il n'y a pas vraiment de garde-fou pour cette société. Et je pense que les excès, donc il y a un certain nombre d'excès qui sont dénoncés. Certains sont volontaires et mis en œuvre par les entreprises ou les États. D'autres sont involontaires au sens où ils résultent de cyberattaques ou de vols de données. Mais il y a véritablement besoin du développement d'une pensée politique de ce contrôle pour mettre en œuvre quelque chose qui paraît acceptable et souhaitable à une population et qui permette de faire face aux limites auxquelles la société fait face aujourd'hui, tout en ayant un degré de contrôle qui paraît le degré souhaitable. Et je pense que dans les évolutions précédentes des sociétés, ce genre de questions ont été posées et arbitrées d'ailleurs, puisqu'il y a, il y a des contrôles que la société ne s'autorise pas à opérer. Par exemple, le secret des sources des journalistes est un exemple de cadre institutionnel où la société s'interdit d'aller contrôler quelles sont les sources des journalistes. Et je pense que le même genre de garde-fous devront être pensés pour la société numérique.
Merci Stéphane Krumbach, directeur de recherche à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, l'INRIA. Vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris.
Merci Eric Bataillon.
On rappelle votre article « Gouvernance numérique et changement climatique » paru dans le dernier numéro de la revue Hérodote, revue fondée par Yves Lacoste et dirigée par Béatrice Gibelin. Le numéro qui s'intitule « Géopolitique de la datasphère » a été coordonné par Frédéric Douzet, directrice du centre de recherche Géode. Une semaine d'actualité réalisée cette semaine par Steven Elsley. Retrouvez aussi l'émission à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Je vous retrouve pour ma part ce soir à 19h40 temps universel pour une émission Orient Hebdo consacrée à la lutte au Maroc contre les discriminations liées au genre et au sexe. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.